La première, entrez sans frapper.
Nous recevons maintenant notre invité dans Entrez sans frapper, c'est Marie Dariussecq. Bonjour Marie Dariussecq.
Bonjour.
Vous êtes en direct avec nous de Paris. Je vous représente pour nos auditeurs. Vous êtes une écrivaine française. Vous avez exercé comme psychanalyste. Et ça va être important, hein, je pense, dans la discussion que nous nous apprêtons à avoir. Votre premier roman a été un immense succès. C'était il y a 20 ans maintenant, en 1996. Il s'appelait Truisme. C'était un roman qui nous racontait la transformation progressive de la narratrice en truie, et c'est donc un roman qui était assez traumatisant, je trouve, qui questionnait mais notamment le corps féminin, ce que ça veut dire d'être une femme, etc. C'est un roman dont on pourrait reparler aujourd'hui, d'ailleurs, avec tout ce qui ébranle le monde. Il y a eu Si Tom est mort, il y a eu Clève, il y a eu Il faut beaucoup aimer les hommes, qui a été primé d'Icis, et puis là, dans cette rentrée littéraire, vous publiez Notre vie dans les forêts. Alors on l'a tous lu ici, autour de cette table, Jacques de Pierrepont, Myriam Leroy, Éric Russon également. Je vais d'abord présenté, parce que c'est une dystopie, le monde dans lequel se passe votre nouveau roman. On comprend assez vite que ce sont des robots qui ont pris une espèce de pouvoir, même s'ils ont absolument la même apparence que les hommes. Ils gèrent notamment des espèces de cliniques géantes, dans lesquelles on découvre assez vite qu'il y a des clones, que les êtres humains les plus aisés, va-t-on dire, ont le droit d'avoir un clone qui est en fait une espèce de...
De banque d'organes.
Quand on va avoir un problème, on va aller chercher un organe chez ce clone. Les appartements n'ont pas de fenêtres, les chiens n'ont pas besoin de courir, ils ont été modifiés, les oiseaux ne chantent plus, quand tu vas au zoo, tu peux aller voir des mammouths. Et donc, on a une narratrice. Cette narratrice, elle s'appelle Marie, comme vous, Marie Dariussecq, même si elle va se rebaptiser plus tard. Elle va nous expliquer qu'elle vit désormais en dehors de cette société, dans une forêt. C'est de là qu'elle va écrire ce carnet, qu'elle n'aura d'ailleurs, elle nous le dit, hein, j'écris à la volée parce que j'aurais même pas le temps de me relire. On sent qu'elle est en danger parce qu'on sent qu'elle est faible. Il lui manque un œil, elle a des problèmes respiratoires également. Et on comprend que là, dans cette forêt, les êtres humains ne sont pas seuls. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire l'éclat qui vous a posé à écrire ce livre-là, l'idée première?
Alors, comme beaucoup de livres, il vient de plusieurs idées qui font un petit faisceau, une petite pelote à un moment. J'étais en train d'écrire, à vrai dire, un autre roman, mais que j'aimais pas trop, qui marchait pas bien. Et puis, Trump a été élu. Et puis, on s'est retrouvés en France, englués dans la campagne électorale. Mmh. Et comme beaucoup de Français et même de terriens, j'avais un sentiment d'asphyxie, d'angoisse de plus en plus folle, au fond. Enfin, ça n'allait pas, quoi. Ça n'allait vraiment pas. Et ce roman est né, d'ailleurs, un peu comme Truisme à l'époque, d'un point d'angoisse, d'une espèce de fixité, enfin de quelque chose qui insistait tous les jours et à quoi on ne pouvait pas échapper. Mmh. Alors évidemment, c'est un roman qui ne parle pas directement ni de Trump, ni de cette élection en France, mais ça en parle, je crois. Ça parle de quelque chose d'imminent qu'on sent tous, nous les humains, et qu'on essaye d'empêcher, voilà. Et en même temps, j'espère que c'est drôle, parce que c'est aussi une des voies de fuite, ça.
Voilà, hein, parce que Marie, elle va avoir un discours qui est quelquefois extrêmement drôle, évidemment. Et ça, on va y venir. On rappelle que ces fameux clones, on les appelle les moitiés. Ce sont les moitiés de ces êtres humains. Et en fait, dans l'histoire, pour que ça progresse pour nos auditeurs, pour qu'ils comprennent, à un moment, les êtres humains, par une loi qui est un peu plus, qui offre un peu plus de liberté que les autres, parce qu'on sent que la société, elle est extrêmement cadenassée. On comprend que les humains peuvent aller rendre visite à leurs clones, à leur moitié qui dorment en fait, hein, tout simplement, dans des hôpitaux, en attendant de devoir donner un organe à leur propriétaire. Et va naître donc un lien entre les êtres humains qui ont un clone et leur clone.
Mmh. Oui, je suis aussi une grande insomniaque, et cette idée d'aller rendre visite comme ça à ma moitié, à mon clone, mais endormi, et d'aller comme ça contempler mon autre moi-même, mais endormi, je crois que la simple idée me reposait. Et évidemment, dans cette espèce de moment où ce monde très cadenassé autorise comme ça les humains à aller rendre visite à ces clones endormis dans les cliniques, comme ça, très aseptisés, c'est là que ça se met à dérailler, parce qu'il y a un attachement, il y a un transfert, comme on dirait en psychanalyse, qui se crée sur cette personne qui a toujours dormi, qui semble rêver sous les paupières, même si le staff, l'équipe médicale autour, qui sont peut-être des robots, on ne sait pas trop, prétend que non, que les clones ne peuvent pas rêver puisqu'ils n'ont jamais eu accès à la vie éveillée, etc. Et ça crée, oui, un lien qui, en fait, aussi, on le verra au fil du roman, est assez décevant, en fait. Parce qu'un clone réveillé n'a pas forcément de sens politique. Enfin, c'est ce que vont découvrir ces fugitifs dans la forêt.
Voilà.
Ils pensent qu'à s'amuser, en fait.
Les clones éveillés, ils pensent qu'à s'amuser et à faire l'amour. Hein,
à manger, notamment. À forniquer, voilà. Aucun sens du collectif.
Non, c'est vrai. Alors, c'est un roman qui parle de la robotisation, des banques d'organes, du clonage à but thérapeutique. C'est surtout, je trouve, un roman qui nous dit voilà comment une société pourrait réagir après un immense trauma, parce qu'on sent depuis le début du livre qu'il s'est passé évidemment quelque chose de catastrophique dans le monde.
Et puis c'est aussi un roman qui pose la question de c'est quoi un être humain finalement, parce que je veux dire, l'être humain qui dort et qui attend qu'on lui prélève plutôt ses organes, c'est un être humain, sauf que en effet on se demande s'il rêve, on se demande s'il a une conscience politique, etc. etc. Donc qu'est-ce qui fait finalement un être humain? C'est une des questions qui traverse le roman.
Bah, mine de rien, oui, en fait, parce que, mais c'était aussi déjà, effectivement, dans mon premier roman Truisme, c'était qu'est-ce qu'une femme, mais aussi qu'est-ce qu'un être humain. Mmh. Est-ce que la littérature ne s'occupe pas, au fond, de cette question? Et puis, de savoir comment habiter la Terre, en fait. Enfin, est-ce qu'il nous reste vraiment une Terre à habiter? Je crois que cette catastrophe-là qui nous pend au nez, cette impression de désastre imminent, c'est cette conscience que je crois on a tous, maintenant, en 2017, que la Terre ne va pas pouvoir nous supporter plus longtemps. Il y a quelque chose comme ça. Et ça, c'est extrêmement angoissant. Parce qu'on a tous quand même ce fantasme que la Terre, c'est notre mère porteuse, pour faire un mauvais jeu de mots. Et j'ai l'impression qu'elle ne peut plus nous supporter, justement. Alors ça, c'est assez cauchemardesque, en fait, ce qui nous arrive. Et je crois que oui, la question de qu'est-ce qu'être humain, mais aussi qu'est-ce qu'être animal, du coup.
Enfin, oui, parce qu'il y a un retour à la forêt, hein.
Il y a un retour à la forêt, tout à fait. C'est quelque chose qui nous tracasse en ce moment. Enfin, qu'est-ce qui nous arrive, oui. Et la littérature s'occupe de ça.
Ce qui est très drôle, ce sont des animaux qui lui adressent des messages. Je crois qu'il y a un oiseau, un pigeon, oui. et puis un chien. Qui lui disent de disparaître, finalement, de déconnecter.
De déconnecter.
Oui, ouais,
ça, ce qui n'est pas un mot pris au hasard.
C'est une obsession contemporaine, oui. Et quand on dit méditer, c'est ça aussi. Enfin, arrêter de se pencher sur nos prothèses sans arrêt, sur ces téléphones qu'on aura peut-être bientôt sous la peau. Alors, je suis pas passéiste, hein. Moi, je raffole d'Internet. Je ne me sépare que très, très difficilement de mon téléphone. Mais je pense que tout ça est allé trop vite pour notre cerveau et pour notre inconscient aussi. Je sais pas vous, mais moi, je me rends compte que je ne rêve jamais de mon téléphone portable. Et je ne rêve même jamais avec un ordinateur. Dans mes rêves sont comme datés des années 80. Vous voyez ce que je veux dire? Et je trouve ça très étrange. Et je pense que notre inconscient n'a pas la vitesse qui est exigée de nous au quotidien, en fait.
Oh, c'est-à-dire que l'évolution a été tellement rapide que l'humain n'est pas capable de s'adapter assez vite à cette
technologie. On n'a pas imprimé. Peut-être nos enfants vont le faire, hein, mais moi, en tout cas, j'ai pas imprimé. Et posez la question autour de vous, je trouve ça assez intéressant.
Je vais arriver de votre ordinateur, Éric Russo,
je fais rarement des feux de camp aussi dans mes rêves.
Ah bon, moi, je suis parfois dans la forêt quand même, dans mes rêves. Quand même. Quels sont les objets qui habitent nos rêves? Enfin, je sais pas.
Une magnifique question et ça doit vous donner furieusement envie d'écrire, Marie Darius.
C'est exactement ce genre de question qui fait que j'écris, oui.
Ah, c'est absolument fascinant. On va parler du trauma parce que c'est ça aussi, en tout cas selon moi, selon ma lecture, ce livre, c'est comment une société réagit à un traumatisme mondial, hein, quel qu'il soit. Hein. Oui. Ça peut être une attaque nucléaire. Alors là, on est dans la planète des singes. Ça peut être autre chose. Ça peut être n'importe quoi, en tout cas un immense traumatisme, et on sait que les immenses traumatismes permettent à des gens mal intentionnés de faire voter très très vite des lois extrêmement liberticides, hein, qui réduisent nos libertés, et pire, on est même d'accord avec le fait qu'ils votent ces lois dans ces moments-là. C'est la suite de la discussion que nous allons avoir avec notre invité du jour, c'est Marie Dariussec, je rappelle, ce roman, il s'intitule « Notre vie dans les forêts ».
La première,
14h30, 16h,
Entrée sans frapper,
Jérôme Collin.
C'est à la fois un roman de science-fiction, mais aussi un conte philosophique, selon nous, en tout cas autour de ce plateau. C'est le nouveau roman de notre invité, c'est Notre vie dans les forêts, signé Marie Darieusec. On va y rencontrer Marie. Marie vit en banc de la société. Elle vit dans une forêt dans laquelle on sent qu'elle dépérit et dans laquelle elle va écrire, incarner sur ce qu'elle vit. Et notamment, ce qu'elle vit, c'est qu'elle a un double. Ce double, en fait, et ça c'est linguistiquement très très approximatif, ce que je vais dire, c'est sa moitié. Et sa moitié, en fait, c'est une banque d'organes, tout simplement, qui dort dans un hôpital et sur lequel elle peut aisément se servir. C'est un monde qui est maintenant dirigé par des robots, où on a des animaux qui ont été modifiés pour qu'on ne doive plus trop s'en occuper. Par exemple, on ne doit plus aller promener le chien, notamment. Et donc, je disais, on a l'impression qu'il y a eu avant le début, c'est post-apocalyptique, il s'est passé un événement incroyable, et sur cet événement incroyable, et la psychologie est extrêmement présente dans le roman, on se dit que des psys sont intervenus pour dire voilà, pour continuer à vivre, il va falloir faire ça, 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 ça. Psy et politique, évidemment. Est-ce que je me trompe, Marie Darieusec ?
Oui, c'est ça, ce sont des psys qui ont été réduits à la fonction d'adaptateurs, en fait. Mmh. Ils doivent adapter les gens à l'insupportable. Alors que pour moi, enfin quand même pour beaucoup de monde, la psychanalyse ou les psychothérapies, c'est des écoles de la liberté. On apprend à se sentir mieux et plus libre. Mais malheureusement, il y a une tendance aujourd'hui, effectivement, quand on envoie des équipes de psy sur les lieux d'attentats, ça a commencé dès le 11 septembre 2001. Il y a eu une équipe de psy d'urgence, ça m'avait beaucoup frappée. Alors que ce qui venait de se passer était tellement sidérant que là aussi, je crois que notre cerveau ne pouvait être qu'en retard quelque part. C'est ça l'attentat, l'accident, ces choses qui se font absolument sans transition dans le cours d'une journée, en fait. Je crois que on est absolument, les robots peuvent agir sans transition, peuvent réagir sans transition, mais nous non. Et donc les psys, avec les meilleures intentions du monde, ont essayé d'adapter les gens à des traumatismes insensés, mais aussi à des vies quotidiennes infernales. Enfin, l'épuisement aussi des gens aujourd'hui. Que peut un psy, à part dire, mais quittez tout, plaquez tout, partez dans la forêt, il faut plus tolérer ça, en fait.
Ah oui, sauf que le psy va comprendre la société dans laquelle nous vivons, et quand quelqu'un va aller voir un psy, et ça peut être vous ou moi, évidemment, Marie Darieusec, j'espère que ça vous est arrivé aussi, c'est une belle expérience de vie.
Moi, ça m'a sauvé la vie.
Ce qu'on dit au psy, c'est remettez-moi vite sur les pieds, parce que je dois travailler et nourrir ma famille.
Comme un robot, voilà, mais on n'est pas des robots, justement. Donc il faut trouver une fine ligne entre la nécessité de continuer à s'adapter au monde dans lequel on est, parce qu'on ne peut pas le réinventer comme ça, mais en même temps aussi à lutter contre lui. Si on est assez nombreux, on peut aussi modifier des choses. Enfin, ce personnage, moi je ne suis pas une théoricienne, et j'ai vraiment, moi je me pose des questions, je n'ai pas les réponses en fait. Un roman, c'est une question. Hein. Et ce personnage que j'ai inventé là, dans cette forêt, c'est une ancienne psychologue qui effectivement a été elle-même un peu broyée, c'est-à-dire on lui a demandé d'adapter les gens. Et je raconte donc quelques récits de cas comme ça, et dans une rescapée d'un crash aérien, rien, enfin, des cas absolument limites. Et puis un homme dont elle va tomber amoureuse, ce qui est complètement interdit d'ailleurs dans la pratique analytique. Le cliqueur, voilà. Vous savez, c'est un métier qui existe vraiment, cliqueur. Ça existe déjà, en quelque sorte.
Ah ben là, on va y aller. Alors, on va sur ce personnage. c'est effectivement un patient dont Marie va s'occuper. Et son métier, c'est d'être cliqueur. Est-ce que vous pouvez nous décrire ça, Marie Darieusec ? Métier fascinant.
Ce sont des programmateurs, en fait, informatiques, qui associent, qui programment les logiciels, le cerveau, disons, des robots, l'intelligence artificielle.
Ils vont leur permettre de faire des associations intelligentes.
Voilà. Nous, quand on pense à la couleur rouge, on va penser au sang, mais aussi à l'amour. Pour un robot, c'est impossible, c'est pas logique, c'est irrationnel. Donc, il faut lui apprendre ça. Mais on va aussi penser, je sais pas moi, si vous prenez la couleur bleue, on va penser au ciel, on va penser au sang bleu des aristocrates, on va associer avec Révolution française, avec, je sais pas, décapitation, liberté. Tout ça, ces associations qu'on fait parce qu'on est des humains et qu'on a été éduqués d'une certaine façon, le robot, il peut pas les inventer. Il faut les lui apprendre. Donc, on estime là que... Donc, il y a des cliqueurs sur la planète, c'est souvent un travail de prolétaire. Enfin, on dit plus ce mot, mais il y a vraiment des gens qui travaillent dans la soute de la planète et qui sont payés $1,500 de l'heure, en Inde en particulier, pour faire ce programme, enfin, ce travail de programmateur d'association. Sang égale rouge, égale attentat, mais égale aussi amour. Donc, il paraît, je travaille beaucoup en cherchant sur Internet, hein, donc vous savez, il y a de tout sur Internet. Mais ça peut être aussi très romanesque, ce qu'on y apprend.
Évidemment.
Donc il paraît que dans 50 ans, on aura vraiment fourni assez d'associations aux intelligences artificielles pour qu'au fond, on puisse imaginer qu'elles développent un inconscient, justement, qu'elles se mettent à rêver, qu'elles aient assez de matériel comme ça pour associer librement, comme nous, au fond. Alors je sais pas trop où on en sera à ce moment-là.
Ben, j'espère qu'on aura l'intelligence d'enlever les piles avant. Myriam Leroy.
Pour en revenir quelques instants au côté psy, dans le livre, votre héroïne évoque trois méthodes en fait, pour transcender les traumas. Est-ce que vous pouvez nous en parler de ces méthodes ?
Alors, il y a la méthode de l'EMDR qui existe vraiment et qui d'ailleurs produit des effets intéressants sur les traumas. Je pense juste qu'elle ne suffit pas. Donc, vous savez, vous en avez entendu parler, il faut suivre... C'est des mouvements oculaires qui sont produits par... il suffit d'agiter un doigt ou une aiguille ou devant les yeux du patient et de prononcer certaines phrases apaisantes ou de refaire dire au patient son histoire. Je suis assez sceptique, à vrai dire, mais bon, dans certains cas, ça marche un peu, apparemment. Après, il y a la ligne de vie qui est toute bête. C'est qu'on raconte... Moi, j'ai 48 ans, donc il faudrait que je dessine 48 cases en choisissant un dessin par case. C'est un peu une sorte de résumé de la vie qu'on a menée, mais forcément positif. C'est ça qui est un peu ridicule aussi, parfois. Ça fait un peu livre